Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Histoire d'en savoir plus qui vous est aujourd'hui présentée par votre serviteur Christophe Zubien. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Irina Ségur qui est présidente de l'association russophone du département d'Eure-et-Loire qui est aussi l'une des artisanes de ce mois russe à Chartres. Qui vient, on va dire, qui s'inscrit dans le cadre de l'année croisée France-Russie. On va parler de tout ça. On va aussi parler, bien sûr, de Dostoïevski, de la quinzaine Dostoïevski dont on a déjà parlé avec Sylvie Tribouillet dans l'émission Par ici, les sorties. Puis on va parler de vous, Irina, parce que vous nous venez d'une région qui nous est peu familière et qui est de la lointaine Sibérie. Est-ce que je peux commencer par vous poser des questions sur vous, sur votre enfance? Où avez-vous grandi?
Bonsoir à tous. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai grandi en Grand Nord sibérien, dans la région qui s'appelle Yamal. C'est la région gazière et en même temps, c'est la région où il y a les éleveurs, où ils habitent, les éleveurs de rennes, les peuples ethniques nénets, qui fait rêver tout le monde parce que c'est le Grand Nord, c'est la désert blanche. C'est le froid jusqu'à moins 50, moins 40. Voilà, donc j'ai vécu tout ça. J'ai vécu 25 ans dans cette région.
Et après, vous êtes venu en France directement ou non?
C'est comme ça. J'ai rencontré mon mari qui est venu pour tourner le film pour France 3 de Venir un homme en Sibérie. Donc, il est venu à rencontre des nénets. Et c'est comme ça que je suis quittée la région. Je me suis trouvée en France.
Et donc, ces nénettes, vous pouvez nous en parler, nous en dire deux mots? Donc, ce sont des éleveurs de rennes, ça j'ai bien compris. On aurait dû les voir normalement ici à Chartres pendant les festivités de Noël. Malheureusement, le Covid en a décidé autrement. Vous pouvez essayer de nous donner à comprendre qui ils sont?
Oui, en fait, c'est vrai que les nénettes, c'est un peuple ethnique, unique. Et ils sont incroyables parce que malgré l'arrivée de la civilisation et tout, ils continuent à garder leurs traditions. Ça veut dire qu'ils vivent de la façon comme... Ils ont gardé la mode de vie de ses ancêtres parce qu'ils vivent toujours dans l'habitation qui s'appelle tchoum, c'est genre yurte, mais avec les peaux de renne. Et donc, les nénettes, ils sont liés directement avec le renne. Cet animal, pour eux, c'est quelque chose de sacré, très important. Ils ont beaucoup de respect pour cet animal parce qu'ils se déplacent, ils suivent le troupeau des rennes qui se déplacent. Et très souvent, c'est des très grands troupeaux qui peuvent atteindre 3 000 à 5 000 rennes. Et les nénettes, ils les suivent. Et les rennes, ils donnent la maison parce que le tchoum dans lequel ils habitent, ils fêtent avec les peaux des rennes. Le vêtement qu'ils portent, il est fait avec la peau de renne. Ce qu'ils mangent, ils mangent principalement la viande de renne et du poisson qu'ils pêchent. Donc, toute leur vie, finalement, est liée à cet animal. S'il n'y a pas de renne, il n'y a pas de nénette.
Comme les Indiens des plaines d'Amérique du Nord, qui étaient la civilisation du bison, eh bien, eux sont la civilisation du renne. Il ne faut donc pas que les rennes disparaissent, bien évidemment, j'imagine. Est-ce qu'il y a un programme de préservation de l'espèce des rennes en Russie? Oui.
Oui. Je crois qu'actuellement, il manque pas de rennes, en tout cas dans notre région. Je parle pas du Canada ou de Norvège, parce que là, c'est autre chose, mais dans la région de Yamal, justement, c'est autre chose qui pose le problème, il y a trop de rennes actuellement. Et donc, oui, vous voyez, c'était lié un peu, on peut dire, dernièrement, il y avait la grande demande par rapport à la viande et les produits de rennes. Et du coup, les éleveurs, la grande demande de la part des étrangers, de Chinois, par exemple, bref, de l'autre pays. Et du coup, les éleveurs de rennes, vu que c'est bien payé et tout, ils ont commencé vraiment, comment dire, développer plus que d'habitude leurs troupeaux. Et aujourd'hui, et ça pose certains soucis parce qu'il n'y a pas assez de pâturage. Parce que finalement, les rennes, ils mangent uniquement le lichen. C'est la seule chose qu'ils mangent. Et voilà, ils le creusent dans la neige. Et les lichens, ça pousse très très lentement, ça pousse 1 cm par an. Donc au final, ils ne peuvent pas revenir tout le temps dans le même endroit. Il faut laisser pousser, on peut dire, certains pâturages. Et aujourd'hui, pour dire qu'il y a plus que 20 000 de rennes, je crois, aujourd'hui. En fait, c'est minimum 30% plus qu'il avait au moins 5-6 ans. Donc, c'est vraiment c'est très rapide, le développement.
Et il faut les nourrir et c'est difficile de les nourrir, si je comprends
voilà.
bien. Oui.
Voilà. Oui. Et donc, je sais que dans le gouvernement de Yamal, il est en train de trouver la solution. Il essaye d'habituer, comment dire, changer un peu certains troupeaux. Il essaye de les habituer à rester sur place. Ils ont aménagé un endroit pour que... Parce que la reine, c'est un animal qui doit se déplacer.
C'est ça, oui.
Ce sont les nomades. Parce que pour l'été, ils remontent très au nord et pour l'hiver, ils redescendent plus haut dans les coins du sud. Et donc maintenant, le gouvernement de Yamal, il essaie de les habituer à rester sur place. Je ne sais pas s'ils vont réussir. C'est depuis 12 ans, depuis, oui, un an et quelques. Je crois que l'hiver avant, bref, c'était le début quand ils ont essayé de faire ça.
Alors, on en saura davantage, moi ça me passionne tout ce que vous me dites, tout simplement on en saura davantage durant le mois russe à Chartres, grâce à la projection des deux films de votre mari, on pourra aller voir où et quand.
En fait, effectivement, à la médiathèque, le 11 décembre, de 14h à 16h, il y aura deux films sur cette région et sur le peuple ethnique. Le premier film, ce sera « Le devenir un homme en Sibérie ». Qui va parler, nous pourrons voir les images de Nénets et l'histoire de Nénets. Et c'est le film très éducatif parce qu'il parle d'un petit garçon et les épreuves qu'il doit passer pour montrer qu'il est digne de devenir une personne adulte, on peut dire un homme.
Un homme. D'initiation, quoi, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Il est maintenant digne de...
On imagine que ça doit peut-être pas rigolo, c'est d'initiation, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire?
En fait, ça donne la vie. Au bout d'un moment, le garçon, il doit éprouver certaines choses. Et s'il réussit, dans ce film-là, on montre qu'il était un peu négligent et il a perdu une partie des troupeaux. Et donc, père, il a pas laissé, comment dire, il l'a pas épargné autant que petit garçon, comme quoi c'est papa qui va réparer ses erreurs. Il dit, ah non, c'est à toi maintenant d'aller chercher les rennes que tu as perdues. Parce qu'il avait 150 rennes, je crois, qui sont partis vers l'autre côté. Et donc, ce petit garçon, il a dû les retrouver, malgré la tempête de neige redoutable qui a commencé, malgré que les parents... Ils se sont déplacés parce que les parents, ils ne peuvent pas rester dans le même endroit, attendre leur garçon si le troupeau, il veut avancer. Parce que les nénettes, ils suivent le troupeau. C'est depuis toujours, c'est le troupeau qui dirige finalement l'homme.
C'est vraiment intéressant, ça.
C'est les animaux qui disent qu'il faut partir. C'est pas le... Et voilà, les parents, ils sont partis, les garçons... Il a fini pour retrouver les rennes, il a fini par retrouver ses parents. Bon. Et donc, sa maman, elle est très inquiète. Ouais. Et le deuxième film, c'est sur l'histoire de la Sibérie, de la conquête sibérienne. C'est très, très intéressant. Le film, il s'appelle « Les rois guerriers de Sibérie ». Il était tourné en 2012. Il est sorti sur l'écran en 2013, et c'est le film qui parle de l'histoire, de la page histoire inconnue, même pour les Russes, parce que c'est le résultat du travail des chercheurs, des archéologues, des historiens, qui finalement, grâce à les fouilles archéologiques, ils ont retrouvé les archives, et ils ont compris qu'ils ont tombé sur une habitation des chefs des peuples ethniques. À l'époque, ce n'était pas les nénettes, c'était Samoyèdes.
Samoyèdes. Ah oui, Samoyèdes, oui, bien sûr. Oui,
et
oui.
Donc, on voit l'opposition qui a Samoyèdes et fait, contre, on peut dire, les gens de Tsar et d'ailleurs les étrangers aussi, parce qu'à l'époque, ce n'était pas gagné que la Sibérie, elle va appartenir à Russie, parce qu'il y avait Hollandais, il y avait les Allemands, il y avait les Anglais, il y avait pas mal de marins qui...
Ça intéressait tout le monde, la Sibérie, alors.
Oui, ça intéressait tout le monde, parce que c'était Eldorado, quelque part, parce qu'il y avait les zibélines, il y avait la fourrure... Et qui était très apprécié en Europe à cette époque-là. Ça coûtait la fortune. Et donc, tout le monde voulait y aller. Et justement, Ivan Terrible, il a fait pas mal de choses pour empêcher l'étranger
de s'emparer de la Sibérie.
Oui.
Ah, ça, donc, on ira voir ces films. Devenir un homme en Sibérie, Les rois guerriers de Sibérie. Donc, c'est à la médiathèque L'Apostrophe. Vous pouvez nous rappeler les dates, Irina?
C'est le 11 décembre. Des 14 heures. Il y aura deux films.
Les deux films pour le prix d'un.
Formidable. Ouais, pour une qui va suivre l'autre.
Ouais. Voilà. Alors, vous êtes, j'ai omis de le mentionner, élu municipal aussi. Et en ça, vous êtes un peu responsable du mois de la Russie. C'est un peu grâce à vous qu'il y a un mois russe à Chartres.
Oh, oui.
Et c'est dans le cadre de l'année croisée France-Russie. Qu'est-ce que c'est que cette année croisée?
Oui, en fait, je suis pré-élu. Et cette année, suite des rencontres de nos deux présidents, il est proclamé l'année croisée France-Russie. Ça veut dire qu'il faut, c'est bien d'effectuer l'échange. En tout cas, c'était souhaitable pour que les communes...
Oui, les relations s'apaisent un peu aussi entre la France et la Russie, ce serait bien.
Ouais, oui, justement, c'était décidé qu'il faut rétablir un peu les bons termes, les bonnes relations, on peut dire. Et donc, notre président, il a invité toutes les communes de France de participer, de faire les échanges avec les régions au choix en Russie. Et voilà, vu que moi, j'ai vécu dans la région Yamal, j'ai proposé faire un échange avec les régions Yamal. Et c'était le programme qui pouvait être magnifique, mais malheureusement, à cause du Covid, les délégations de Yamal ne pourraient pas venir. Parce que justement, j'ai prévu que c'est les peuples ethniques, c'est les nénètes qui auraient dû venir avec leurs magnifiques vêtements en peau de renne. C'est aussi les Pères Noël avec sa petite fille Snegurochka qui le accompagne, qui aura dû venir pour souhaiter la bonne Noël à toutes les Chartrans et tout le monde dans la ville. Et voilà, malheureusement...
On les verra sur l'écran.
Oui.
Il y aura aussi un spectacle pour enfants, je crois.
Oui, il y a par contre, ce que nous pourrons voir quand même, il y a pas mal de spectacles au musée des Beaux-Arts sur le sujet de la Russie. C'est les spectacles qui étaient faits par les artistes qui vivent en France, mais c'est l'histoire, ce sera l'histoire pour les enfants et pour les adultes. Bref, c'est quelque chose d'intéressant, mais avec le thème russe. Et aussi, il y a une exposition des photos à la médiathèque aussi, qui va commencer, il me semble que c'est 31 novembre. Bref, en tout cas, début décembre, ce sera exposé tout le mois de décembre. Et c'est l'exposition aussi sur les nénètes, sur le Grand Nord de Sibérie. Et après, il y a les décorations qui va nous rappeler un peu quand même de ce thème des années croisées. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut, on va garder, mais malheureusement, on ne peut pas présenter tout le programme qui était prévu et qui était développé.
Oui.
Voilà.
On peut en revanche écouter un peu de musique, et c'est ce qu'on va faire, après quoi on se retrouvera pour parler, entre autres choses, d'un certain Fiodor Dostoïevski. Voilà, nous venons d'écouter donc de la musique. Je rappelle que vous êtes sur Radio Rentiel. L'émission Histoire d'en savoir plus vous est présentée par Christophe, votre serviteur. Et je reçois aujourd'hui Irina Ségur, qui est présidente de l'association russophone du département du Ré-et-Loir. Nous parlons avec Irina du mois russe qui aura lieu au mois de décembre à Chartres, de l'année croisée France-Russie. Et il y a une quinzaine de Dostoïevski aussi, on vous en a déjà parlé sur Radio Rentiel. C'est l'occasion de demander à une amie russe ce que représente pour elle et ce que représente pour les Russes cette grande figure de la littérature qui est Dostoïevski. Tout le monde connaît Dostoïevski, j'imagine, en Russie.
Oui, évidemment, Fyodor Mikhailovich Dostoïevski, déjà on l'a étudié dans le programme scolaire, donc on le connaît dès l'âge de 10 ans à peu près, et c'est sûr que c'est un très très grand écrivain, vraiment peut-être unique, parce que c'est un écrivain qui a vraiment allé au fond de l'âme humaine. Pour moi, c'est un écrivain qui, non seulement un écrivain, c'est un grand psychologue et grand chercheur de l'âme humaine, de la psychologie humaine, parce que dans les héros de ces romans, c'est les personnes qui nous montrent les richesses très, très profondes, très, très profondes de l'âme. C'est des personnages vraiment qu'on ne trouve pas peut-être ailleurs.
Oui, des personnages c'est une littérature vraiment à part. C'est aussi une double tension entre les abîmes et puis le ciel, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Parce que Dostoïevski, je pense que dans ses œuvres, on voit un peu sa personnalité aussi. Lui, il était toujours tiré entre les deux extrémités, d'une côté. C'était un homme très spirituel et très élevé, on peut dire, très, comment dire, religieux aussi. Et de l'autre côté, il ne pouvait pas résister au joug, c'était un joueur. D'ailleurs, il y a le roman qui s'appelle « Joueur » où, en fait, il décrit lui-même, il écrit ce que vivent les personnes qui tombaient, on peut dire, dans cette dépendance. Et donc... Donc, dans ces œuvres, on voit toujours les extrêmes. C'est un peu comme l'âme russe. C'est toujours l'extrême. On l'aime très fort et on déteste très fort.
C'est le climat, peut-être, qui fait ça, non?
Oui, c'est
le
possible.
Le climat, les grands espaces, etc. Évidemment, on ne peut pas être comme ailleurs. Irina, on pourrait parler de Dostoïevski pendant des heures. Je voudrais qu'on dise peut-être deux mots, parce qu'il y a plusieurs manifestations qui sont organisées dans le cadre de cette quinzaine de Dostoïevski, dont une que vous avez un peu parrainée, si j'ose dire. C'est une exposition d'icônes. C'est où et quand
Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui vont se passer pendant 2 semaines. Et il y a l'exposition des icônes qui aura lieu à l'hôtellerie Saint-Yves. Et sinon, nous aussi, on organise notre association à la Maison pour tous du Pont-Neuf l'après-midi à la découverte de l'âme russe. Donc, ce sera le 21 novembre à 15h, à partir de 15h. Et donc, on va présenter un peu le spectacle de la culture russe. Il y aura la danse, il y aura la musique, les chansons cosaques. Il y aura aussi pas mal de poésie. Poésie des poètes russes, mais ce sera en français. La poésie sera
d'accord,
en français.
On pourra entendre, qu'est-ce qu'on pourra entendre tiens, comme poète russe?
De Yesenin, de Akhmatova.
Et que de grands poètes aussi, et que de grandes poétesses chez les Russes. Hein.
Oui, ouais, ouais. Et les romances, donc, parce qu'à l'époque de Dostoïevski, en Russie, il y avait toujours la musique, il y a toujours la danse, ouais. C'est lié avec les fêtes russes. Ouais. Et après le spectacle, on va proposer le goûter russe, goûter пирожки.
Пирожки. Qu'est-ce que ça veut dire?
Пирожки, c'est un petit gâteau. Fourré, on peut dire, on va faire les pirochki sucrés, parce qu'il y a les pirochki salés, les pirochki sucrés, donc...
Non. On aurait pu parler de la cuisine russe, on n'a pas le temps, parce que la cuisine russe, elle est très, très réputée aussi, ouais. On mange très, très bien en Russie.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Alors, c'est fourré à quoi, ces petits gâteaux-là?
C'est fourré, ça peut être fourré aux pommes, aux confitures,
Ce qu'on veut. selon les désirs des hôtes, des invités.
Oui. Exactement.
Très bien.
Et par rapport à les icônes, oui, effectivement, pour les Russes, les icônes, ça représente des choses très, très importantes. Ce que je veux dire, que je pense que icône, on peut la trouver donc carrément, je ne me trompe pas si je dis, dans chaque maison en Russie, il y a une icône. Les Russes, il y a une icône partout, il y a dans les voitures, il y a, bref, c'est la protection quelque part, et c'est depuis des siècles et des siècles, c'est la tradition. On peut attendre de l'histoire des croix rouges ou l'angle rouge, où depuis toujours, il avait la croix avec les icônes, ou l'angle où on a mis les icônes, où on a mis les bougies, et c'était le croix de la maison, le plus noble, on peut dire, la plus honorée.
Donc, on vénère les icônes, hein, c'est-à-dire que...
Oui, il avait la grande... il a toujours la grande vénération. Et donc, dans toutes les églises russes, orthodoxes, toutes les murs et partout, il y a des icônes. C'est la partie qu'on ne peut pas enlever, on peut dire, de l'église orthodoxe.
Est-ce que, j'en profite puisque vous parlez de l'orthodoxie, est-ce qu'il y a eu une renaissance de l'orthodoxie après la fin du communisme? Vraiment, hein, on a cette impression.
On peut dire que c'est plus que renaissance.
Plus qu'une renaissance, une résurrection.
On reconstruit pas mal des églises. Il y a Poutine, il fait beaucoup aussi d'intention pour soutenir aussi l'église russe orthodoxe. Donc c'est, là, l'église, elle est soutenue partout. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et il y a beaucoup de gens qui attirent et qui sont revenus aux églises. Donc, il y a les baptêmes, il y a de tout. Je pense que tout le monde est baptisé. C'est aussi, ça fait partie des traditions. On baptise les enfants tout de suite après la naissance, carrément. Donc, c'est...
Je voudrais qu'on parle peut-être des échanges entre la France et la Russie. Parce que cette association que vous avez créée, c'était aussi pour faire connaître la culture russe à Chartres et pour ouvrir aussi peut-être les Russes à la vie française. Il y a une histoire d'amitié qui est très ancienne entre la France et la Russie. Est-ce qu'on aime toujours la France en Russie?
Oui, les Français, ils ont toujours la place à part dans la cœur des Russes. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est possible que c'est lié avec l'aristocratie russe qui parlait tous français. Il y avait, vous savez, dans toutes les familles nobles russes, il y avait toujours les gouverneurs ou gouvernantes françaises qui apprenaient les enfants à bien parler, qui apprenaient aux bonnes manières, etc. Et en tout cas, je sais que... Même avec mes voyages et tout, chaque fois quand je venais, parce que je participais à l'époque, j'ai organisé les tournages des films aussi en Russie pour les équipes françaises. Et je sais que les équipes françaises étaient toujours très, très bien accueillies sur les marchés, partout où on a rencontré les gens. Dès que tu dis que voilà, les Français, ils aimeraient bien vous filmer, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? C'était toujours oui. Et il m'est arrivé, c'était sur le marché à Yakoutie, à Yakoutsk, qu'il y avait les marchands qui m'a dit qu'on aimerait bien donner une interview aux Français, mais vous savez, il y a 10 jours, il y avait une équipe américaine, on n'a pas voulu dire quelque chose.
Bon, les Français, le gouvernement français ferait bien quand même d'y penser, c'est vrai, c'est une vieille histoire d'amour entre la France et la Russie, il ne faudrait pas que ça se perde. Il nous reste quelques petites minutes, est-ce que vous pouvez nous parler des activités de votre association en dehors de ce mois russe? Qu'est-ce que vous faites
Oui, bien sûr, en fait, dans notre association, évidemment, on fait l'enseignement de la langue russe pour les adultes et pour les enfants. Pour les enfants, c'est pour les enfants franco-russes qui habitent à Chartres et dans la région de Chartres. Et sinon, on a aussi le groupe d'adultes qui ont une vie, qui s'intéressent à la culture russe. Donc, il y a la langue russe. Ensuite, il y a les activités. On organise les fêtes pour faire découvrir la culture russe à tout le monde qui veut venir. C'est toujours, les portes sont toujours ouvertes pour tout le monde.
Donc, toutes les fêtes, c'est-à-dire quelles fêtes
En fait, on organise, par exemple, la fête de Noël. Donc, cette année, ce sera le 12 décembre. fête Noël russe. Ensuite, on organise la fête de Mardi Gras. Ça s'appelle Maslenitsa en russe, avec les crêpes, évidemment. Donc, parce que c'est aussi ce dont la tradition, cette hege. Voilà, on dit avoir à l'hiver, on fait rencontrer le printemps. Et donc, voilà, donc c'est très gai, c'est très festif, on peut dire, très coloré aussi. Et sinon, on organise pas mal de choses pour nos petits, nos enfants qui ont des bas âges aussi. Il y a la petite gymnastique, petite gym danse, on peut dire, pour les petits enfants. Il y a les ateliers de la peinture, de dessin. Il y a les ateliers des petits architectes aussi pour les enfants. Oui, oui. Où les enfants, ils peuvent créer en 3D des, bref, c'est essayer, créer quelque chose, c'est initier, on peut dire, en oui. architecture. Ouais. Donc, voilà.
Voilà, donc beaucoup de choses. Et puis, on vous a entendu aussi, je crois que c'était lors de la dernier salon des associations, ou il y a 2 ans peut-être, je ne sais plus, mais vous aviez donné aussi, il y avait un peu de danse, il y a des chanteurs, on chante et on danse beaucoup aussi en Russie. La danse, évidemment, les grands danseurs russes, on connaît tous Nijinsky ou Nureyev, qui étaient plutôt ukrainiens d'ailleurs, mais bon. vous dansez aussi ?
Oui. Oui, on danse toujours pendant nos fêtes, absolument. Il y a toujours des danses pendant nos spectacles.
Oui.
Les enfants et les adultes, et bref, ça fait partie de la culture.
Alors, cette association, tout le monde peut y adhérer. On n'est pas obligé d'être russe, bien évidemment.
Non, pas du tout. On n'est pas obligé d'être russe. Il suffit de s'intéresser, aimer la Russie, aimer la culture, s'intéresser un peu. Et voilà, et tout le monde est bienvenu.
Voilà. Est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone ou une adresse mail pour vous joindre si les auditeurs et auditrices nous écoutent
Oui, voilà, on peut appeler à mon numéro, c'est 06 26 76 52 12. Voilà, donc, je peux donner les renseignements et sinon, on peut écrire à ardel@charter.ru.
Voilà, Ardel, c'est A-R-D-E-L, je précise.
Oui, Ardel, c'est Association russophone, département l'Eure et Loire.
Merci voilà. beaucoup, Irina. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Merci à Simon Martin en régie technique. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.radiorentiel.fr.